en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Le thème des communications des séances de l'Académie des sciences morales et politiques portait pour l'année 2005 sur l'histoire et posait cette question : peut-on faire confiance aux historiens ? Cette année était placée sous la présidence de l'historien Jean Tullard. Chaque lundi, un académicien ou une personnalité invitée par l'Académie s'est donc exprimée sur ce thème et le 21 novembre, c'est M. Jacques Dupaquier, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui répondait à cette question en analysant la manière dont les manuels d'histoire de la Troisième République présentaient aux petits écoliers français l'ancien régime. On rejoint tout de suite la salle des séances.
Ce sujet n'a rien d'anecdotique, comme aurait pu l'être une étude sur les manuels du XVIIIe siècle. Il va me donner l'occasion de raconter des batailles qui ont largement débordé le cadre scolaire pour enflammer à plusieurs reprises les tribunes de la Chambre et du Sénat, d'abord en 1882-1883, puis de 1907 à 1914, la loi de séparation n'ayant pas calmé le jeu, bien au contraire. Bataille acharnée, dont la véhémence ne doit pas nous surprendre dans le contexte de l'époque où se sont engagés les plus marquants des ministres de l'instruction publique, Jules Ferry, Paul Bert, Émile Combes, Aristide Briand, Gaston Doumergue. J'ai été tenté un moment d'étendre mon analyse à l'ensemble des manuels scolaires, mais ceux du second degré, plus longs, plus savants, plus nuancés, mieux inspirés, ne renvoient que l'écho assourdi des combats idéologiques de l'époque, alors que ceux du cours élémentaire et du cours moyen, illustrés souvent de gravures caricaturales, montrent à nu la conception de l'histoire qui anime leurs auteurs. On peut leur appliquer le jugement que portait Tocqueville sur les auteurs de second plan, composant avec peu d'art, ils trahissent encore mieux peut-être les vrais instincts du temps. Quant aux manuels en usage dans l'enseignement confessionnel, et plus particulièrement chez les frères des écoles chrétiennes, ils présentent des dérives opposées, mais comme ils n'apparaissent qu'incidemment dans les grands débats, pour fournir à la polémique des contre-exemples, dont nous reparlerons plus loin, je les ai laissés. Je me limite donc aux manuels de l'enseignement primaire officiel de 1871 à 1914. Deux points forts dans cette bataille des manuels. La publication en 1882 de l'instruction civique de Paul Bert et le gros pavé que lança dans la mare l'anarchiste Gustave Hervé en 1903-1904, faisant éclater le consensus patriotique imposé par Jules Michelet et son épigone Ernest Lavisse. Rappelons deux mots le contexte idéologique. L'hostilité viscérale des fondateurs de la Troisième République, non seulement au cléricalisme, mais comme le disait Gambetta, à l'esprit vaticanesque, monastique, congréganiste, syllabique. Plantons quelques repères chronologiques. En février 1880, la réforme du Conseil de l'instruction publique, de manière à en éliminer les représentants de l'Église. En mars 1880, la bataille de l'article 7, qui se termine par l'expulsion des congrégations enseignantes non autorisées. En juin 1881, la gratuité de l'enseignement primaire. En mars 1882, l'obligation scolaire et la laïcité des programmes avec exclusion des devoirs envers Dieu. Tout ceci, par conséquent, dans un temps très court, qui va se terminer par la première bataille des manuels. Jusqu'à cette date, les manuels en usage à l'école primaire étaient brefs, ternes et honnêtes. Il s'efforçait de comprimer l'histoire dans un cadre chronologique aussi précis que possible. Guerre et dynastie s'y succédaient d'année en année, Le contexte économique et social y était presque totalement ignoré. Écrivain, philosophe et artiste n'apparaissaient qu'épisodiquement. Ils tenaient bien moins de place que les rois et les généraux. Mais cependant, après l'introduction de l'histoire comme matière obligatoire à l'école primaire, ce qui remonte en 1867 sous le Second Empire, les auteurs s'étaient efforcés d'adapter à un tout jeune public les recettes qui avaient fait leurs preuves jusqu'alors dans l'enseignement secondaire. Avec le manuel que publie en 1867 Ernest Lavisse, première version, fils spirituel de Victor Duruy et ancien précepteur du prince impérial, l'horizon s'élargit. À la faveur de récits très vivants, les paysans de l'ancien régime font une entrée discrète dans l'histoire. L'hiver de 1709, par exemple, est décrit concrètement sans jugement de valeur sur Louis XIV. Même lorsqu'il aborde des sujets plus politiques tels que les droits féodaux, Lavisse ne se départit pas d'une certaine objectivité. Les scrupules de l'historien l'emportent sur la flamme républicaine. Flamme un peu tardive, vous le savez. Il cherche à expliquer, non à stigmatiser. En voici un exemple très représentatif. Au Moyen-Âge, écrit Lavisse, le seigneur était le défenseur et le juge du paysan dont la cabane était bâtie au pied de son château. Il était jusque dans ce temps-là, le paysan paya les services qu'il recevait de son seigneur. Il les payait en argent ou en travail, ce travail s'appelait la corvée. Mais du temps de Louis XV, les seigneurs ne défendaient plus le paysan, ils ne lui rendaient plus la justice, ils ne résidaient même pas sur leurs terres, les paysans supportaient donc impatiemment les droits féodaux. 6 ans après ce premier morceau relativement objectif, s'ouvre la grande querelle scolaire. Les scrupules et les honnêtetés de l'historien allaient être balayées par l'idéologie progressiste grâce à l'introduction de l'instruction civique dans les programmes en vertu de la loi du 28 mars 1882. Pendant toute cette période, histoire et instruction civique interfèrent sans cesse. Avant même que la loi ne fût votée, 2 ouvrages parurent, dont chez Nathan, le livre de morale du petit citoyen du protestant Jules Stègue et l'instruction civique à l'école du farouche républicain Paul Bert, qui avait été 3 mois durant ministre de l'instruction publique dans le grand ministère Gambetta. Donc un premier manuel écrit par un ancien ministre, non historien. Le manuel de Stègue dresse un tableau saisissant de la France à la veille de la Révolution. Vous allez voir la dérive. Depuis des siècles, la France gémissait sous le joug des rois et des seigneurs. Ils étaient les maîtres et le peuple n'avait aucun droit. Ils travaillaient pour eux, ils payaient le peuple toutes leurs dépenses. Il était foulé aux pieds et souvent il mourait de faim. On disait de lui qu'il était taillable et corvéable à merci. C'est-à-dire que ses maîtres pouvaient lui imposer à leur volonté toutes les corvées et toutes les contributions imaginables qu'on appelait la taille, le sens, la gabelle, la dîme, etc. Quand il ne voulait pas travailler pour les seigneurs, on le battait, on le jetait en prison. Quand il ne pouvait plus payer les lourds impôts qui l'écrasaient, on vendait la maison, les outils et on jetait les pauvres gens dehors, dans les bois où ils se nourrissaient d'herbes. Soumis à tous les caprices de ses maîtres, le peuple ne jouissait d'aucune liberté, il ne pouvait ni suivre la religion qui lui convenait, ni diriger les affaires de sa ville ou de son village, ni exercer les métiers qui lui convenaient. Avec Paul Bert, le célèbre Paul Bert, qui a encore beaucoup de rues et de collèges en France, ancien préparateur de Claude Bernard au Collège de France, biologiste réputé, devenu président perpétuel de la Société de géologie et qui venait d'être élu à l'Académie des sciences, donc à l'Institut, et on alla encore plus loin dans la caricature. Bert était un libre penseur militant, l'inventeur du slogan « Paix au curé, guerre aux moines », la paix au curé étant d'ailleurs très relative, vous allez le voir. En 1879, lors de l'affaire de l'expulsion des congrégations, président à un banquet du Conseil général de Lyon, il avait porté un toast à la destruction des deux phylloxéra. Le phylloxéra qui se cache sous la vigne et le phylloxéra que l'on cache avec des feuilles de vigne. Pour le premier, nous avons le sulfure de carbone. Pour le second, l'article 7 de la loi Ferry. S'il ne répond pas à notre attente, nous n'hésiterons pas à chercher un autre insecticide plus puissant pour sauver la France. Et c'est lui qui a introduit à ce moment-là la notion de sulfateuse. La sulfateuse, vous le savez, étant l'ancêtre du Karcher. Estimant que les historiens étaient bien timides sur la dénonciation de l'ancien régime, Paul Bert, qui n'avait aucune formation historique, s'empare du sujet et lui consacre 8 leçons de son manuel d'instruction civique. La première porte sur les bienfaits de la Révolution. Nous lui devons le culte de la patrie, nous lui devons l'unité nationale, nous lui devons la justice, nous lui devons les droits et les devoirs des citoyens. Nous lui devons la souveraineté du peuple. Nous lui devons l'administration régulière et honnête. Nous lui devons le vote de l'impôt par les citoyens. Et nous lui devons la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà au moins une prise de position sans équivoque. La seconde, alors Bert va parler des cerfs attachés à la glèbe. Comme si le servage avait encore prédominé dans la France de 80. L'auteur y développe l'exemple d'un village imaginaire qui aurait eu pour seigneur l'abbé de Saint-Gildas et le baron de Saint-Yrieix. Là-haut était le couvent, habité par 6 moines, qui passaient leur vie à prier, à se promener, à surveiller les travaux de leurs serfs, à recevoir les produits et redevances. Monsieur l'abbé, lui, ne venait pas souvent. Il était à Versailles à s'amuser avec son frère le baron. Les moines avaient bien plus qu'il ne leur en fallait pour vivre, aussi étaient-ils aussi gros et gras que leurs paysans étaient décharnés. Viennent ensuite 3 leçons horrifiques sur les droits féodaux. Le cens qualifié de rente qui équivalait quelquefois au quart de la valeur du revenu. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça dans ma carrière d'historien. Le droit des ventes, c'est-à-dire le 1/6 au moins du prix de vente. De même, le rachat quand on recevait une terre en héritage. Tout y passe. Droit de colombier, droit de justice, droit de chasse, corvée, dîme, champard du 5e sur les fruits pour monsieur le baron, et le carpeau du quart de la vendange, et le droit de pulvérage, et le droit de blairage. Payé, toujours payé, pour creuser un puits, il fallait payer encore. Et quand tout ça était payé, et qu'on se voyait pour l'hiver un peu de blé en grange, et quelquefois un peu d'écu au fond d'un vieux bas, croyez-vous que tout fut fini? Point du tout. Monsieur le baron mariait sa fille, il fallait payer. Il naissait un enfant au château, il fallait payer. Et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelait, dit-il, les tailles seigneuriales. Outre les erreurs et les confusions, on voit quel est le procédé de Paul Bert. Une généralisation cumulative de cas particuliers. Il ne s'étonne pas qu'après avoir tant payé, le paysan français ait encore quelques écus au fond d'un vieux bas, ou même tout simplement un vieux bas. D'autant que le malheureux n'était pas au bout de ses peines. Il lui reste à faire face aux impôts royaux et surtout aux famines, j'ouvre les guillemets, qui s'expliquent surtout par l'infamie du roi de France, Louis XV le bien-aimé, qui avait organisé le pacte de famine et qui fit mourir de faim des milliers de Français pour gagner quelque argent sur les blés. Inutile de multiplier les citations. L'image que donne Paul Bert de l'Ancien Régime se concrétise par l'opposition de 2 images saisissantes de son manuel. L'une opposant le village avant la Révolution, l'autre après la Révolution. Voici le commentaire qu'en donne alors la Revue des Deux Mondes. Par un artifice digne du père Patouille, l'un nous est représenté en hiver, le village, et enseveli sous la neige. L'autre s'épanouit en plein printemps. Tout est vert, tout est fleuri. Et sûrement le rossignol chante. Faut-il conclure que l'hiver est un de ces abus que la Révolution a supprimés? Mieux vaudrait nous ramener à l'alphabet des sans-culottes. Dans la 2e édition de son manuel, le village autrefois n'est plus vu sous la neige, mais il est largement dominé par le château, tandis que le village d'aujourd'hui, pour montrer la largeur d'esprit de Paul Bert est représentée avec son église. Dans le village aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sont des petits pavillons en meulière derrière des haies de Troène. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Comme il fallait s'y attendre, le catéchisme républicain de Paul Bert a suscité de violentes réactions. Dès le 15 décembre 1882, la congrégation de l'Index le condamna en même temps que trois autres manuels d'instruction civique et morale, mais pour des motifs purement religieux. Une première guerre scolaire s'alluma. À Beaumont-les-Hôtels, en Eure-et-Loire, le curé fit brûler publiquement ceux qui se trouvaient entre les mains des élèves fréquentant le catéchisme. L'inspecteur réagit en excluant les élèves qui n'auraient plus entre les mains le manuel de Paul Bert. Et l'inspecteur d'académie exigeant des parents une soumission totale au choix de l'institut. Le 10 juillet 1882, à la tribune du Sénat, Louis Buffet interpelle Jules Ferry. Est-ce ainsi qu'est respectée la neutralité promise ? Impassible, Ferry disculpe l'instituteur, le loue, charge le curé et le comité catholique d'Eure-et-Loire. Nous ne souffrirons pas que par le moyen du refus de sacrement, le curé s'arroge le droit de censure sur les livres de nos écoles. Pourtant, il juge inopportun l'arrêté de l'inspecteur d'académie et finit par concéder que le manuel de Paul Bert comporte des atteintes manifestes au principe de la liberté religieuse. Là-dessus, Louis Buffet révèle au Sénat que l'instituteur de Beaumont-les-Hôtels s'était déjà signalé dans quatre autres communes. Dans l'une d'elles, il avait, en plein milieu de la classe, décroché le crucifix avec un balai, l'avait jeté sur son bureau et mis les débris sur le tas de bois à brûler. Jules Ferry est embarrassé. Pour clore l'affaire, dans sa lettre aux instituteurs, qui date de novembre 83, il admet de désacraliser les manuels, qu'ils ne doivent pas être, dit-il, une sorte de catéchisme nouveau. Ne mettez pas votre amour propre à adopter tel ou tel livre. En revanche, sur la vision manichéenne de l'histoire, opposant l'Ancien Régime et la France contemporaine issue de la Révolution, Jules Ferry reste intransigeant. « Messieurs, dit-il au duc Albert de Broglie qui l'a interpellé, nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, non plus que la neutralité politique. » Bien entendu, les frontières entre les unes et les autres étaient assez floues, mais il n'a garde de le relever. Dès lors, encouragé par l'engagement du ministre, la plupart des auteurs de manuels s'engouffrent dans la brèche. Ils mettent l'histoire au service de l'instruction civique et celle-ci est conçue comme l'exaltation de l'œuvre de la Révolution. Jadis, tout était noir, aujourd'hui, tout est rose. La France est passée de l'ombre à la lumière, si je puis anticiper sur un mot historique célèbre. 9 thèmes principaux sont systématiquement orchestrés. L'histoire du peuple français et celle de son affranchissement. Jacques Bonhomme était écrasé d'impôts, certains auteurs allant jusqu'à préciser qu'on lui extorquait 81% du fruit de son travail, ce qui dépasse nettement, n'est-ce pas, le taux de prélèvement aujourd'hui en 2005. Il y avait encore en 89 beaucoup de serfs, sorte d'esclaves que les seigneurs possédaient corps et biens sans que la différence soit jamais faite entre serfs et esclaves. Jacques Bonhomme était écrasé simultanément par tous les droits seigneuriaux et féodaux répertoriés dans les cahiers de doléances. Vous savez que la France était diversité. Quand on additionnait, si on additionnait tous les droits seigneuriaux et féodaux, on arriverait à prélever 300% du produit du travail du paysan. Au clergé, le paysan payait la dîme ou le dixième de son revenu, mais souvent ce dixième se trouvait porté au quart ou au tiers du revenu net, ce qui est, vous le savez, une absurdité. Quand le fisc du roi et le fisc du seigneur avaient passé sur les vilains, il ne leur restait pas toujours un morceau de pain. Je continue à citer. Sans autre gîte qu'une chaumière de bois et de boue, sans aucun vêtement que des guenilles de toile, sans autre nourriture qu'un peu de pain noir, de châtaigne, les paysans travaillaient toute l'année pour le roi, pour leur seigneur, pour le clergé. pour tous ces favorisés dont les privilèges n'étaient que l'exploitation de leur misère. Autre thème, on ne laissait même plus aux paysans de quoi ensemencer les terres, et cet odieux système faisait de notre fertile France un pays pauvre. Enfin, on laissait avec intention le peuple dans la plus profonde ignorance. Les ficelles auxquelles étaient suspendues ces images caricaturales étaient très apparentes. Les auteurs s'emparaient de cas particuliers, sélectionnaient des exemples, et vous le savez, en sélectionnant les exemples, on peut prouver n'importe quoi. Quant aux citations, elles sont soigneusement triées, parfois détournées, jamais critiquées. On va parfois jusqu'à la falsification pure et simple. Vous connaissez, par exemple, le morceau de rhétorique de La Bruyère sur les animaux farouches. Le manuel de Gautier et Deschamps n'hésite pas à l'améliorer sans supprimer pour autant les guillemets. La Bruyère écrivait « Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines ». Le manuel traduit « Ils vivent pendant l'hiver de glands de racines et de pain noir qu'ils disputent aux chiens et aux loups ». Et ceci avec une image à l'appui. Et j'ai observé avec curiosité que cette image qui montre deux paysans assaillis par un chien et par un loup avait été reprise par la propagande allemande en 1940, où on voit un paysan et une paysanne qui plantent avec précaution une plante. Et il y a le chien et le loup qui les assaillent. Sur le chien, il est écrit « juif » et sur le loup « gaulliste ». Et la légende, laissez-nous tranquille. En effet, je pense que l'auteur de l'affiche avait des réminiscences qui dataient de l'école primaire. En effet, les images de ces manuels noircissent encore le tableau. La plupart représentent des scènes imaginaires où le dessinateur peut se permettre toutes les fantaisies. Rares sont les images qui s'inspirent des tableaux et gravures de l'époque. En ce cas-là, on les choisit de préférence dans les misères de la guerre de Jacques Callot. À ma connaissance, les frères Lenain ne sont repris qu'une seule fois, sur 80 manuels à peu près que j'ai consultés, qu'une seule fois dans les tableaux d'histoire de la civilisation française de Lavis et Parmentier, mais avec un commentaire désespérément plat. J'espère que c'est plutôt Parmentier que Lavis qui a écrit ça. Voici. Voyez ces paysans, ils sont assis sur de mauvais escabeaux, ou même sur des planches portées sur des tonneaux. La table est couverte d'un linge grossier. Il n'y a guère que le lit qui est bonne apparence. Encore les courtines en sont-elles toutes déchirées. Leurs vêtements sont grossiers et misérables. Deux d'entre eux n'ont même pas de souliers. C'est que le bon Lavis, qui avait honnêtement présenté l'Ancien Régime dans son édition de 1876, ne peut résister à l'entraînement général. Dans l'édition de 1887 de ce fameux petit manuel, il complète ainsi son récit de l'hiver de 1709 de manière à en faire un réquisitoire politique. Il y eut par endroits des émeutes qui furent réprimées, mais le peuple accusait Louis XIV d'être l'auteur de ces maux, et il avait raison. Pourtant, une revue professionnelle comme le Ralliement des instituteurs et institutrices estime encore, en août 1891, qu'on n'en fait pas encore assez. Pourquoi appeler Henri IV le bon roi ? Ce qui devrait ressortir de notre enseignement populaire de l'histoire, c'est l'oppression presque continuelle de la populace par une aristocratie toute puissante et l'état d'ignorance et de misère des vilains sous la monarchie. Ainsi s'amorce une seconde querelle d'Emmanuel. En attendant triomphe toujours le catéchisme républicain. Il s'agit, écrivent deux auteurs à succès, Guillaume et Mann, dont le manuel est tiré à 600 000 exemplaires, de faire des élèves, des hommes de progrès, de bons et sincères républicains, d'excellents Français, qui seront convaincus de la grandeur de l'œuvre accomplie par la Révolution française et continuée par la Troisième République. Leur objectif n'est pas de faire comprendre, mais de faire bien penser. Deux autres auteurs le disent explicitement dans la présentation de leur manuel, c'est Gautier et Deschamps, des idées, des jugements fournis aux élèves dans la leçon, aussi bien que dans les exercices d'intelligence et de réflexion qui accompagnent la leçon, font de l'histoire autre chose qu'un entassement de dates et de noms, oubliés aussitôt qu'appris, ils en font un livre qui apprend à bien penser et à bien juger. Sur la voie royale du progrès, l'histoire de l'Ancien Régime devient donc un prélude à la Révolution. Et la Troisième République, couronnement logique de celle-ci, marque la fin d'une longue marche du peuple français vers la terre promise. Une histoire axée sur le mythe fondateur de la Révolution française, la détestation de l'Ancien Régime, n'aurait-elle dû aboutir à jeter par-dessus bord, ou, comme le disaient les historiens marxistes dans les poubelles de l'histoire, le passé monarchique de la France? La violation symbolique des sépultures royales à Saint-Denis le 1er août 1793 n'aurait-elle pu trouver écho et prolongement dans les manuels primaires de la Troisième République triomphante? Or, il n'en a rien été. Voyons la table des matières du manuel préparatoire de la Vise dans son édition de 85. Parmi les récits concernant l'Ancien Régime figurent les victoires de Henri IV, Sully, Condé, Saint-Vincent de Paul, Colbert, Louvois, la mort de Turenne, La Fontaine, Bossuet, Fénelon, l'hôtel des Invalides, le palais de Versailles, les abus, les états généraux. De même, pour la seconde année d'histoire de France, les récits suivants sont sélectionnés. Querelle d'Henri IV et de Sully à propos de l'industrie. Henri IV, son assassinat. Mathurin Régnier, Malherbe, le cardinal de Richelieu, la prise de La Rochelle, les duels, l'exécution de Montmorency, le cardinal Mazarin, l'administration de Mazarin, la misère publique et Saint-Vincent de Paul, la Fronde, la jeunesse de Louis XIV, le portrait de Colbert, le canal du Languedoc, Louvois, la conquête de la Franche-Comté, Condé, Turenne, les réfugiés français à Berlin, la bataille de Steinkerk, la succession d'Espagne, Villeroy à Crémone, le grand hiver, Louis XIV en 1709, Corneille, Boileau, Racine, Molière, le régent et Dubois, le cardinal Fleury et Frédéric de roi de Prusse, puisque ça, vous savez que ça a été une des grandes études historiques de Lavis. Fontenoy, Rosbach, la perte du Canada, la banqueroute, l'agriculture, les lettres de cachet, les droits féodaux, les corporations et Turgot. Vous voyez, ce choix est extrêmement important. Il ne s'écarte guère du choix d'Emmanuel des frères des écoles chrétiennes. Bien entendu, les manuels catholiques exaltent de préférence Louis XIV, le plus grand roi de l'histoire de France. Louis XVI, le roi martyr. Les héros chrétiens, comme Jeanne d'Arc et Bayard. Et les savants. Mais les dissonances, les écarts entre les deux séries de manuels porte moins sur l'ordonnance de ce qu'on a appelé la galerie des hommes illustres que sur leur notation. Les manuels officiels font place à Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Saint-Vincent de Paul, mais en les amputant de leur dimension spirituelle. Les manuels catholiques vilipendent les rois persécuteurs de l'Église et surtout les acteurs de la Révolution. Pourtant, il y a d'une série à l'autre plus de consonance que de dissonance. Tous décernent des prix et des accessites au roi rassembleur des provinces et même au constructeur de l'État, Henri IV, le plus français, le plus bienfaisant et le plus populaire de tous les rois, etc. Mazarin lui-même n'est pas trop mal noté. Gautier et Deschamps lui reconnaissent autant de fermeté et de grandeur que Richelieu, tout en lui reprochant, à juste titre, d'avoir mal géré les finances de l'État et de s'être amassé une immense fortune. Dans l'album de famille de tous les Français, tel que nous le présentent les critiques d'aujourd'hui, figurent en tête ceux dont l'image ne souffre aucune discussion. Les rois patriotes, comme Louis XII et Henri IV. Les grands guerriers, comme Bayard et Turenne. Les ministres laborieux, tels Sully et Colbert. On parle de Louvois, mais Louvois n'est pas sympathique aux auteurs de manuels. En enfer, les débauchés, Henri III, Louis XV, les incapables, Louis XVI, les ambitieux, et surtout les traîtres, le connétable de Bourbon, Saint-Marc, etc. Le panthéon laïque se distingue cependant par l'exaltation de grands ancêtres spécifiques, précurseurs ou prétendus tels de l'idée républicaine. Michel de l'Hôpital, Fénelon, Voltaire, les philosophes y ont la part belle. De héros à demi oubliés déjà comme Dassas, des victimes de l'intolérance et du fanatisme de l'Église, les albigeois, Étienne Dolé, Calas. Dans un camp comme dans l'autre, les conquêtes sont vues d'un bon œil, dans la mesure où elles sont conformes aux vrais intérêts de la France, entre guillemets, vrais intérêts. Ce qui n'est le cas ni des guerres ni d'Italie, ni de la dévastation du Palatinat. Ernest Lavis résume ainsi, de manière finaliste, l'histoire de France, tout retombant sur la citation de tout à l'heure. C'est en réunissant les pays qui appartenaient à leurs grands vassaux que les rois ont créé la France. Ils l'ont fait comme les propriétaires qui achètent un champ, puis un autre encore, et arrondissent ainsi leurs propriétés. Ce qui explique qu'évidemment, l'histoire des provinces tardivement réunies soit oubliée jusqu'à leur réunion. Bref, les manuels d'enseignement primaire de la période assument l'histoire de France dans sa totalité. Ils admettent comme un postulat que c'est la Révolution qui a révélé la France à elle-même et créé son identité, mais aussi, au moins c'est insinué, que le souffle révolutionnaire n'a fait que dévoiler ce qui était caché, la France éternelle. On comprend dans cette vision syncrétique pourquoi Clémenceau a pu soutenir devant la Chambre un peu plus tard que la Révolution est un bloc. Il n'est pas question pour les Républicains de dissocier 1793 de 1789. Le mythe révolutionnaire l'emporte sur les réalités historiques. Par devant l'Europe, avait déjà écrit Michelet, la France n'aura jamais qu'un seul nom inexpiable, qui est son vrai nom, la Révolution. Du coup, Ernest Lavis, l'instituteur national, comme le qualifie notre confrère Pierre Nora, peut reconstruire l'histoire de France, ou plutôt la réécrire à l'envers, par une sorte de rétroprojection du présent sur le passé, du présent révolutionnaire et républicain sur le passé monarchique. Triomphe idéologique de Michelet, le premier à avoir vu la France comme une arme et comme une personne, et il y a bien longtemps que je suis la France, vivant jour après jour avec elle depuis 2 milliers d'années. Ainsi, l'Ancien Régime peut être lavé de ses impuretés par une sorte de rétro-baptême posthume, le baptême national et républicain de Clovis, dont on n'a pas beaucoup parlé à l'occasion de la commémoration. L'histoire de France, finaliste d'Ernest Lavis, intègre donc Charles Martel et Charlemagne. Elle fait de l'Arverne vers Saint-Gétorix dans le premier patriote français. Elle ancre l'Ancien Régime dans un passé indéfini dont le présent est la Troisième République. La France est une personne. La France naît. La France s'éveille. La France rêve. La France travaille. La France souffre. La France lutte. Mais la France, finalement, triomphe. Oserais-je parler d'une vision prégaulienne de l'histoire ? Lavis et ses épigones racontent avec talent cette belle histoire comme une croissance continue entrecoupée de crises, de doutes, de drames et de miracles. Nous sommes bien loin de l'histoire avec des si. Sous l'auspice d'une trinité laïque, patrie, état, république, s'épanouit un patriotisme exacerbé par les cuisants souvenirs de l'humiliation de 1870-71. D'où la profession de foi qui figure dans tous les manuels. « Aimez la France », écrivent Guyot et Mann dans leur conclusion. « C'est votre mère. Vers elle doit tendre le vif élan de votre âme. C'est la terre qui vous a vu naître. Là ont vécu vos aïeux. Là ils ont souffert. Sous cette terre repose leur centre. République et France Tels sont, mes enfants, les deux noms qui doivent rester gravés au plus profond de vos cœurs, qu'ils soient l'objet de votre constant amour, comme aussi de votre éternelle reconnaissance. Déjà, Paul Bert, s'inquiétant des risques de développement de l'égoïsme qu'aurait pu secréter le progrès matériel, recommandait aux instituteurs de rappeler aux enfants les gloires de notre pays, de leur en rappeler les héros, les enthousiasmes, au récit de tant de dévouement à la patrie et aux devoirs qui sont l'honneur de vos annales, les attendrir et les indigner en leur racontant et en leur expliquant nos malheurs. C'est l'époque des bataillons scolaires qui défilent à Paris pour la première fois le 14 juillet 1882 dans le cadre des festivités municipales en vareuse et costume bleu sombre, coiffés d'un béret de même couleur à pompons rouges, tambour et clairon en tête, fusil de bois en bandoulière. Ils n'auront d'ailleurs qu'une existence éphémère. C'est l'époque où l'on entonne dans les écoles maternelles, je dis bien, le chant de l'écolier soldat. Pour être un homme, il faut savoir écrire et tout petit apprendre à travailler. Pour la patrie, un enfant doit s'instruire et dans l'école apprendre à travailler. L'heure a sonné, marchons au pas, jeunes enfants, soyons soldats. Oh, j'aime la France, s'écrit Julien dans le Tour de France par deux enfants, le best-seller de l'époque, 7 millions d'exemplaires au total, n'est-ce pas? Je voudrais qu'elle fût la première nation du monde. Cette exaltation du patriotisme n'a pas que des connotations positives. Elle s'accompagne d'une pointe de nationalisme déjà présente chez Michelet. Une autre religion, écrit Michelet, le rêve humanitaire de la philosophie qui croit sauver l'individu en détruisant le citoyen, en niant les nations, abjurant la patrie, je l'ai immolé moi-même. La patrie, ma patrie, peut seule sauver le monde. Comme l'écrit alors le sociologue Émile Boutroux, tous les manuels de l'époque de Jules Ferry, et ceci jusqu'en 1900, avaient rompu avec la doctrine dissolvante de la fraternité des peuples, je cite. Et en 1884 encore, la tribune des instituteurs et des institutrices affichait les trois couleurs. Nous autres instituteurs français, nous savons profiter de toutes les occasions pour inspirer à nos élèves un vif amour de la patrie, et l'idée humanitaire, dans ce qu'elle a d'exagéré, n'a jamais trouvé d'apôtre parmi nous. 20 ans plus tard, 1904, paraît à la bibliothèque d'éducation un manuel radicalement nouveau, tant par son contenu que par sa puissance de contestation, l'histoire de France à l'usage des cours élémentaires et moyens du jeune professeur anarchiste Gustave Hervé. Gustave Hervé, qui était professeur d'histoire au lycée de Sens, est l'un des dirigeants de la Fédération socialiste de Lyon de tendance alémaniste, avait été poursuivi en 1901 comme éditeur d'un journal antimilitariste, le Piou-Piou. Oui, on avait relevé, l'avocat général relevait à propos de la célébration de Wagram, ces phrases violentes, « Tant qu'il y aura des casernes, je voudrais que l'on rassemblât dans la principale cour du quartier toutes les ordures et tout le fumier de la caserne, et que solennellement, en présence de toutes les troupes, en tenue numéro un, au son de la musique militaire, le colonel en grand plumé vint y planter le drapeau du régiment. » Hervé avait été défendu par un jeune avocat, promis une grande carrière, Aristide, brillant, qui réussit à le faire acquitter. Aussitôt, le conseil académique suspendit Hervé de sa chaire, il fit appel, il gagna encore, mais finalement, il fut définitivement exclu. Vous savez qu'Hervé allait se tailler une bonne célébrité en 1935 en publiant cette brochure prémonitoire, « C'est Pétain qu'il nous faut ». Il était devenu ultramilitariste pendant la Grande Guerre et il tomba, si vous me permettez, d'un excès dans l'autre. Voici la conception d'Hervé qui seule nous intéresse ici. Considérant, écrit-il dans sa préface, que l'histoire registre des rois et des cours, des batailles et des traités, des généalogies et des dates n'est pas la véritable histoire, parce qu'elle oublie totalement la plus grande partie de l'humanité, le peuple qui travaille et qui souffre, nous avons préféré nous intéresser aux masses sans nom plutôt qu'aux acteurs en vue. D'un côté, nous avons essayé de montrer les efforts des opprimés pour améliorer leur sort, et de l'autre, les efforts de leurs oppresseurs pour les maintenir sous le joug. C'est un vrai pavé dans la mare qui va semer le trouble pour toujours dans le camp laïque. Interpellé à la Chambre le 3 juin 1904, le ministre Chaumier désavoue publiquement Gustave Hervé et une majorité écrasante des députés, 468 voix contre 47, condamne les doctrines internationalistes. Quelques mois plus tard, le Conseil supérieur de l'instruction publique, statuant à l'unanimité, fait interdire le manuel d'Hervé comme mal fait, tendancieux. Et il cite, c'est extrêmement curieux, que les auteurs prétendent que la France d'avant la Révolution était une chourme et que le roi en était le gardien. Or jusque-là, n'est-ce pas, il y avait un consensus pour admettre ça. Ainsi l'instruction publique. Attaquée sur sa gauche par les anarchistes, on vient à désavouer la caricature de l'ancien régime qu'elle avait brandi jusqu'alors. Du coup, les auteurs de manuels laïcs et républicains sont pris à contre-pied. Depuis quelques années, ils avaient commencé à élargir leur horizon, à privilégier l'histoire des progrès de la civilisation et de l'esprit humain au détriment de l'histoire bataille. Par exemple, Hollard, dès 1894, Calvé et Devinin en 1898. Quelques-uns, influencés par les campagnes pacifistes de Frédéric Passy, avaient mis à l'index les manuels d'histoire trop chauvins et les leçons d'instruction civique trop nationalistes. En 1902, un journal socialiste, La Petite République, avait lancé un concours sur le thème « Connaissez-vous des livres scolaires qui vous semblent ne pas répondre aux exigences de l'esprit moderne ?» Le jury, où figurait une grande figure laïque, Ferdinand Buisson, avait couronné le mémoire d'un instituteur parisien intitulé « Démasquons les empoisonneurs ». Il mettait en accusation de nombreux manuels d'histoire, dont celui de Paul Bert, pour y avoir lu « Pas de haine entre Français, gardez-la pour l'ennemi ». Les meilleurs textes furent publiés sous le titre « Bon Dieu laïque », ce qui allait relancer la polémique. Dès lors, la plupart des manuels d'histoire et d'instruction civique avaient pris à cette époque-là leur distance à l'égard du nationalisme. Mais on voit le fragile équilibre de cette prise de position. Elle ne pouvait satisfaire ni les pacifistes ni les défenseurs de l'ancien régime. Elle allait provoquer une nouvelle guerre des manuels, au cours de laquelle l'école laïque, déjà accusée d'athéisme, risquait d'être dénoncée comme antipatriotique. Après avoir chassé Dieu des salles de classe, allait-elle en bannir les gloires nationales, comme Jeanne d'Arc, Saint-Louis et Richelieu? En mars 1904, trois instituteurs fondent l'Union des instituteurs patriotes avec un journal, l'École patriote, qui trouve de puissants appuis au centre et à gauche. En 1905, il publie un pamphlet sur la crise du patriotisme à l'école que préface René Goblet, un radical de gouvernement qui avait été ministre de l'instruction publique en 1885, puis président du Conseil de décembre 86 à mai 87. Il soutient que la guerre est une fatalité, Goblet, que la guerre est une fatalité, à laquelle il faut préparer les jeunes générations, en exaltant les valeurs viriles. Encouragé par ce succès, Bequillon publie en 1907 une nouvelle dénonciation des auteurs pacifistes, intitulée « École et patrie ». Et il va jusqu'à réhabiliter à cette occasion l'histoire bataille. Ce n'est pas en exaltant les bienfaits de l'introduction de la pomme de terre ou de l'invention du métier à tisser, thème pacifiste au premier chef, ce n'est pas en proclamant Parmentier, Jacquard, héros nationaux et bienfaiteurs plus authentiques de leur pays que Louis XIV et Napoléon qu'on donne à des hommes la trempe qui aide à remplir certains devoirs malaisés, comme celui dont s'acquittaient, non sans quelques profits pour la France, les compagnons d'armes de Villars à Denain, ceux de Dumouriez à Valmy, etc. Au lieu d'enseigner à nos enfants la peur plus encore que l'horreur de la guerre, qu'on ose leur dire que la guerre, si horrible qu'elle soit, n'est pas uniquement malfaisante. Et dans l'ardeur de la polémique, certains exaltés iront à soutenir, jusqu'à soutenir, que les 5 éditions du cours de morale de Payot, les 77 000 exemplaires de la morale, de la morale de Bayet, les manuels du primaire répandus dans les écoles françaises, ouvrent la France à l'invasion et ajoutent 2 corps d'armée aux troupes de l'empereur d'Allemagne. Ces outrances, auxquelles répondent celles de l'extrême gauche, n'auraient guère eu de conséquences si elles n'avaient contribué à exacerber la seconde bataille d'Emmanuel qui s'ouvre en 1907 et se prolonge jusqu'à la guerre. Celle-ci s'explique principalement par l'échauffement des esprits dans le contexte politique de l'époque que vous connaissez. En effet, la séparation n'amène nullement l'apaisement attendu. Bien au contraire, les catholiques repartent en guerre contre l'école laïque, mais au lieu d'agir en ordre dispersé et de prendre comme cible la détestation de l'Ancien Régime, ils agissent cette fois avec l'appui des évêques et du Vatican, et ils vont prendre comme cible la façon dont les manuels décrivent le rôle de l'Église dans l'histoire. Ils réclament maintenant cette neutralité religieuse que leur avait jadis promu Jules Ferry, à défaut de la neutralité idéologique et de la neutralité politique. Ils se disent outragés dans leur foi par la plupart des manuels en usage à l'école laïque. Ils en réclament l'interdiction ou au moins la refonte dans un esprit plus objectif. Avec la bénédiction de la hiérarchie, les pères de famille catholiques se constituent en association conforme à la loi de 1901. Celle-ci se fédère dans une société générale d'éducation et d'enseignement qui orchestre la campagne contre les mauvais manuels. La presse catholique, la Croix, l'Univers, le Pèlerin prend le relais. Nombre d'évêques encouragent les fidèles à intervenir localement, ce qui va parfois jusqu'à la grève des livres et au boycottage des instituteurs les plus militants. Le 12 septembre 1908, on lit en chaire dans toutes les églises de France une mise en garde des évêques réclamant la neutralité des manuels et des enseignants à l'égard de la religion catholique et appelant les parents à la résistance. Probablement poussés par le Vatican, les évêques récidivent le 28 septembre 1909, allant jusqu'à mettre à l'index 12 manuels, dont 9 d'histoire. Nous interdisons l'usage de ces livres dans les écoles, nous défendons à tous les fidèles de les posséder, de les lire et de les laisser entre les mains de leurs enfants, quelle que soit l'autorité qui prétend le leur imposer. Ce document épiscopal provoque un beau tollé. Certains instituteurs assignent l'évêque du lieu en justice. À la Chambre des députés, les orateurs de la gauche prennent la défense d'Emmanuel incriminé, accusant l'Église de vouloir réécrire l'histoire de France à l'encre violette. On se bat à coups de citations. Le ministre de l'Instruction publique, Gaston Doumergue, monte à la tribune. Il stigmatise la conception catholique de l'histoire et prend la défense des livres incriminés. Nous n'hésitons pas à déclarer que les manuels d'histoire doivent enseigner les gloires républicaines et les conquêtes de la pensée moderne et d'annoncer des mesures de défense républicaine, par exemple des poursuites contre les parents qui retireraient les manuels des mains de leurs enfants. Des débats, il ressort cependant que de nombreux manuels laïcs avaient passé la mesure. Même des laïcs comme Ferdinand Buisson signalent des outrances, et on envisage même de constituer une commission mixte pour les examiner. Aristide Briand, président du Conseil, va accorder aux parents le droit de formuler des remarques sur les manuels qui choqueraient leurs convictions morales et religieuses. Nous sommes en 1909. En revanche, il refuse d'associer les parents au choix des manuels, qui restera du ressort des enseignants et des recteurs. Ainsi se prolonge, sans vainqueur ni vaincu, la seconde guerre d'Emmanuel. On a peine aujourd'hui à comprendre son âpreté, qui a égalé et parfois dépassé celle du conflit des inventeurs, tout en interférant avec lui. Il est vrai que l'enjeu idéologique était considérable Il ne s'agissait plus seulement de l'Ancien Régime et de la Révolution comme en 1880-1882, mais de la reconnaissance du rôle historique de l'Église. Or, 100 ans après, avec le recul nécessaire, il nous apparaît que la ligne de front passait en réalité non entre la droite et la gauche, mais en plein milieu du camp laïque, opposant une poignée d'enseignants pacifistes, parfois anarcho-syndicalistes, à la grande masse des instituteurs qui n'avaient pas toujours reconnu la ligne invisible qui séparait patriotisme et nationalisme. L'école sans Dieu avait en fait un Dieu, la patrie. Et elle était loin d'avoir perdu ses fidèles. Rien n'incarne mieux cette réalité que les pensées de deux instituteurs, Marc, le héros imaginaire du roman Vérité de Zola, en 1916, et Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, qui allait être projeté de La guerre des boutons à La guerre des tranchées. Zola montre son personnage, voulant réagir contre l'éducation de violence, de terreur et de sottise donnée à l'enfant. On exaltait en lui, par le livre, par l'image, par les leçons de chaque heure, que le droit du plus fort, les massacres, les carnages, les villes dévastées, anéanties. De l'histoire, on étalait les pages sanglantes, les guerres, les conquêtes, les noms des capitaines qui avaient décimé l'humanité. En revanche, note Louis Pergaud, à la veille de sa mort, dans son carnet, j'ai l'intime conviction que cette guerre est salutaire et qu'elle est la suite et la continuation des campagnes de la Révolution. On dépasse ainsi largement le sujet. L'image de l'Ancien Régime telle qu'elle figurait dans les manuels d'enseignement primaire de la Troisième République pour déboucher sur un horizon plus vaste l'histoire des mentalités.
Vous venez d'entendre la communication lue par Monsieur Jacques Dupaquier, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui s'exprimait sur le thème de l'année 2005 « Peut-on faire confiance aux historiens ?» en présentant les manuels d'histoire de la Troisième République. Je vous rappelle que les séances de l'Académie des sciences morales et politiques sont ouvertes au public, que vous pouvez vous présenter au 23 Quai Conti tous les lundis un peu avant 15h, la séance étant ouverte à 15h précises.